franceinter.fr.
Les anti-reflux sont-ils à prendre et à prescrire avec plus de parcimonie? Question posée aujourd'hui à la une de la science après la publication d'une étude menée à San Diego et qui montre que la prise régulière de ces médicaments bloque la production naturelle d'acide dans notre estomac et que cela pourrait être à l'origine de maladies chroniques du foie. Pour en parler, Axel, on reçoit un spécialiste de la question.
Oui Mathieu, on est au téléphone avec Philippe Godberge, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes hépato-gastro-entérologue et ancien président de la Société française de gastro-entérologie. Alors peut-être un mot de contexte avant d'aller plus loin. Cette étude a été menée aux États-Unis où 10% de la population prend régulièrement ces antiacides. Quel est le chiffre pour la France ?
Le chiffre est à peu près similaire. C'est vrai que ce sont des médicaments qui sont extrêmement prescrits. C'est pour ça que la question posée par cette étude est pertinente, c'est-à-dire le bien fondé d'un médicament dès l'instant où une prescription aussi fréquente doit pouvoir être remise en cause fréquemment lorsqu'elle est renouvelée pour éviter les automatismes.
Mmh. Ouais. Philippe Godberge, juste pour préciser et pour être très clair avec les auditeurs, ce dont on va parler, ce sont ces médicaments qui sont prescrits justement. Est-ce que ce que vous allez nous dire concerne de la même manière les médicaments qui sont en vente libre hein, ou pas ?
Alors l'étude a été menée exclusivement sur ce que l'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons, c'est-à-dire des médicaments qui sont délivrés en grande majorité sur prescription, mais pas que. Aux États-Unis, ils sont en vente libre. Ce sont des antisécrétoires, c'est-à-dire des médicaments dont la fonction est de réduire la production acide de l'estomac. Et déjà, on peut faire une petite précision, c'est que c'est une réduction et non pas une annulation, alors que dans au niveau humain.
Alors, ils ont travaillé, ces chercheurs, sur la souris et l'homme. Qu'est-ce qu'ils montrent exactement de l'impact de cette réduction de l'acide sur le microbiote intestinal, en l'occurrence, puisque c'est ça, les résultats ?
Alors, les résultats ont été démontrés exclusivement chez la souris. Donc, c'est quelque chose qui est relativement différent de nous, c'est-à-dire qu'ils ont étudié ce que l'on appelait autrefois la flore ou la faune intestinale, qu'on appelle désormais le microbiote, et ils l'ont étudié chez des souris qui ont, de façon naturelle, génétique, la capacité à développer des maladies du foie, qui ressemblent à ce moment-là à nos maladies du foie, principalement la cirrhose alcoolique. Et lorsque l'on étudie la composition bactérienne de leur flore intestinale, on s'aperçoit que celle-ci est modifiée par la prise des antiacides, par de ces antisécrétoires, et qu'elle s'enrichit en un germe particulier qui est un entérobactère que l'on trouve plus fréquemment. Ça veut donc bien dire que ce type de médicament a un impact sur la flore digestive de souris génétiquement modifiées. Alors après, la transposition à l'homme de ces données, elle n'a pas été faite par des données scientifiques, elle a été faite par des données différentes qui sont des données épidémiologiques.
Mais alors, pour revenir d'abord sur la fin de l'explication du phénomène, pourquoi est-ce que l'action sur le microbiote intestinal termine par un surrisque pour chez souris de maladie du foie ?
Alors, il faut voir que il ne faut pas que la perception qu'on puisse avoir à partir d'une étude menée chez la souris, bon, c'est vrai que nous on mange du gruyère, mais enfin on est quand même un peu différent et génétiquement pas pareil, ça puisse inquiéter des patients qui prennent ce type de médicament.
Oui, on va y venir.
On va y venir. D'accord, je vais pas vous
lancer la Non, mais vous en faites pas.
Ouais. Mais par contre, ça le modifie parce que notre flore intestinale produit un certain nombre de substances qui vont avoir un impact. Si on s'intéresse, par exemple, aux petites protéines qui circulent dans notre sang, 30% d'entre elles sont produites par le microbiote intestinal. On comprend bien donc que si cette usine de production change dans sa nature, eh bien la nature des protéines vont pouvoir avoir un impact bien à distance de l'intestin, mais dans les organes qui vont être au niveau cérébral, au niveau psychique, au niveau cardiaque et au niveau hépatique. Et effectivement, le passage d'un certain nombre de substances produites par ces entérobactéries vont avoir un effet plus ou moins toxique, plus ou moins prononcé chez ces souris.
Alors, vous l'avez dit, il y a plusieurs types de patients à qui on prescrit ces médicaments. Est-ce que pour certains d'entre eux, ce type de résultat remet en cause la prescription ou la prise ?
Alors, honnêtement, pour aucun. C'est-à-dire que les antisécrétoires sont des médicaments qui sont fabriqués et commercialisés depuis extrêmement longtemps. S'il y avait un signal épidémiologique fort chez l'homme, vu le volume de prescriptions, vous citez le chiffre de 10% aux États-Unis qui, en plus de ça, est en vente libre, on aurait déjà eu des signaux d'alerte. On ne les a pas eus. Il y a eu une grande vigilance qui a été faite sur d'autres organes, notamment sur l'os, qui n'a pas abouti à une démonstration. En tout cas, la conclusion des auteurs de cet article est significativement plus prudente, mais est du bon sens en disant que si c'est un médicament qui est très prescrit, qui est pris au long cours, il faut régulièrement se poser la question en termes de bénéfice-risque, parce que ce sont souvent, à quelques exceptions près, et qu'on détaillera probablement après, des médicaments qui ne sont pas à caractère vital. Il faut donc que le bénéfice en soit parfaitement démontré, et chez quelqu'un qui a une pathologie du foie et une prescription peut-être, allez, on va dire pas excessive, mais un peu automatique, eh bien peut-être qu'il faut remettre cette prescription en cause parce qu'il y a un petit signal d'alerte expérimental.
Philippe Godberge, qu'est-ce qui produit au fond cette acidité chez la plupart des personnes qui prennent ces médicaments? C'est l'alimentation tout simplement?
Alors, l'acidité, on en produit tous de façon permanente. On a tous eu un jour une petite remontée aigre au fond de la gorge et on sait que ça, à ce moment-là, c'est de l'acide. Mais il y a un certain nombre de patients qui vont avoir une fragilité liée à cet acide. Ils n'en produisent pas forcément beaucoup plus, mais l'acide qu'ils produisent va être agressif, soit sur leur muqueuse parce que celle-ci aura été attaquée par un médicament comme un anti-inflammatoire ou par un microbe, le fameux Helicobacter pylori, c'est-à-dire cette bactérie en hélice qui vit dans l'estomac près du pylore, ou parce que cette acidité remonte dans leur œsophage, c'est-à-dire qu'elle est à un endroit où elle ne devrait pas être. Et là, à ce moment-là, elle en devient irritante et toxique. Comme on ne sait pas réparer ces mécanismes-là, notamment au niveau du reflux, on sait juste le contourner en réduisant la production d'acide. Et donc le temps de contact entre l'acide et l'œsophage diminue parce qu'on réduit l'acide. Mais on ne règle pas ce qui... Et comme certains vont avoir du reflux, par exemple les obèses qui en ont beaucoup, ou les gens qui mangent gras, les gens qui fument, qui boivent de l'alcool, effectivement ils ont besoin de ces médicaments.
Alors vous dites beaucoup de personnes prennent ce médicament. Parmi ces nombreuses personnes, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui prennent ce médicament par confort ou qui le demandent à leur médecin?
Ah, c'est une très bonne question, parce qu'effectivement, s'ils sont autant prescrits, c'est parce qu'ils sont quand même efficaces. Alors, c'est vrai qu'on peut retrouver des médicaments très prescrits peu efficaces, comme des placebos, mais là, c'est vraiment pas le cas. Et du coup, cette efficacité se retourne presque un peu contre le bon sens médical, qui fait que c'est plus facile d'aller prendre un médicament qui calme mon acidité qui remonte, comme on vient d'en parler, que d'aller m'astreindre à un certain nombre de conseils d'hygiène de vie, à commencer par perdre du poids ou arrêter de fumer, et par facilité, je le prends. Et c'est vrai que, pour certains, pas pour tous, parce que des gens qui ont un œsophage très irrité de façon chronique par l'acide, il faut les protéger, mais pour beaucoup, ça peut être une facilité.
Donc pour vous, ces résultats, ils ont plus le vertu d'ouvrir ce débat sur la prescription de confort que d'inquiéter un quelconque patient ou preneur de médicaments?
Oui, c'est exactement cela, sauf que ça peut les amener éventuellement à une espèce de vigilance et poser leurs questions à leur médecin. Voilà, je viens, vous me renouvelez ça régulièrement, mais c'est finalement, ça, ouais. Quelle serait la stratégie pour vérifier que c'est utile? Alors, pour vérifier que c'est utile, il faut l'arrêter. Et est-ce que je ne prends pas de risque en l'arrêtant? Et si je peux réduire la dose, est-ce que je dois le prendre en permanence à une dose plus faible ou de façon intermittente? Parce qu'avec un peu de bon sens, tous vos auditeurs se disent si j'ai un médicament qui marche mais que je peux en prendre plutôt moins et plutôt de temps en temps, c'est mieux pour tout le monde.
Ouais, mais c'est pas mieux de dire aux gens attention à ce que vous mangez plutôt que de prendre ces médicaments de confort la journée et craindre des effets délétères?
Alors, le craint des effets délétères, faut savoir, le rapport bénéfice-risque de ces médicaments sont assez éloignés d'une crainte, mais c'est vrai qu'il faut prendre du temps, et puis surtout, il y a le message, il faut prendre le temps de l'émettre, mais aussi il faut prendre le temps de l'écouter. Et donc j'espère qu'en vous écoutant, les patients vont être motivés pour suivre les conseils que nous on peut leur donner. Mais parfois, la facilité, le temps moderne, la volonté de performance aussi, c'est que dans le monde moderne, en ville, les gens ne veulent pas avoir de symptômes, et ce n'est pas que du confort en plus. Quiconque a eu un jour une remontée un peu aigre dans la nuit, par exemple, après un repas de fête, imaginez ce qui arrive chez des patients qui le ressentent en permanence, de façon régulière. Il y a une vraie dégradation de qualité de vie qui a été mesurée d'ailleurs.
Merci Philippe Godberge pour vos précisions. Je rappelle également que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que tu as dans le ventre ?» qui est paru chez Hachette. Merci beaucoup et Axel, à demain.
À demain.